C'est 23.
COVID-19. COVID. Le bilan. Oud Lagacé. Tout ce qu'il faut savoir, l'état de la situation, chaque jour, avec Paul Oud et Patrick Lagacé.
Là-dessus, on accueille notre ami Paul Oud. Salut, Paul.
Salut, Patrick.
Paul, je regarde tes sujets et je suis très content que tu me parles de Bonnie Henry, qui est la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. Dans le fond, elle est un peu la Horacio Arruda de la BC. Et elle, ce qu'elle constate, c'est que la deuxième vague d'une pandémie, c'est assez inévitable.
C'est ce qu'elle dit. Elle a le droit, parce que elle est qualifiée pour le faire, performance remarquable de Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, qui a fait face à l'arrivée d'un tsunami et qui a retourné la situation d'une façon remarquable. Regarde le bilan actuel de la Colombie-Britannique qui parle de lui-même. Pour elle, c'est inévitable, mais elle n'est pas défaitiste, ça lui fait pas trop peur. Pourquoi? Parce que elle dit, nous avons appris des leçons au cours des derniers mois qui vont nous permettre de faire face à une potentielle seconde vague. Elle n'est pas prouvée encore, ça ne veut pas dire qu'elle va arriver. Si elle devait arriver avec une virulence de transmission comme celle que nous connaissons depuis quelques mois, ben elle dit maintenant, nous avons des outils, on a appris. Elle dit, nous devons être en mesure de comprendre également une chose très importante, c'est que quand arrivera cette seconde vague, elle pourrait être entremêlée avec l'influenza périodique qui revient à chaque année. Elle a dit, ça va être très important qu'on fasse la distinction entre les cas de COVID-19, s'il y en a, avec les cas d'influenza traditionnelle. Écoute, on sait même pas quelle est la souche d'influenza qui va nous surveiller l'hiver prochain. Rappelle-toi que c'est complexe, là. Est-ce que ça va être une H2N2, une H1N1, H3N2? Est-ce que ça va être du type A, du type B? Donc, elle est déjà en mode de préparation au cas où. J'adore ça.
Et il y a le docteur Sandy Bushman, là, qui est président de l'Association médicale canadienne, qui est allé devant le Sénat canadien hier et qui a dit, écoutez, les échos qu'on a de nos membres, les médecins, là, dans toutes les provinces canadiennes, c'est que pour la deuxième vague, les systèmes sont pas prêts.
Exactement. J'aime mieux entendre la vérité. Et Bachman est très qualifié, comme tu l'as dit. C'est le président de l'Association médicale du Canada. Il a dit hier devant ce comité du Sénat quoi? Et si on devait faire face à une seconde vague, encore là, je dis si on devait. Pénurie de personnel médical, pénurie de matériel de dépistage, encore de matériel de protection peut-être, nombre insuffisant de tests. Et il a tenu compte d'une chose, et ça je trouve ça c'est tout à son honneur, la fatigue des médecins, des infirmières et des proposés aux bénéficiaires.
Ben écoute, Alain Vadeboncœur était au micro là il y a quelques jours puis il nous disait exactement ça, là, le personnel est épuisé.
Personnel est épuisé et je trouverais tout à fait légitime que les infirmières lèvent la main en demandant des vacances pour l'été prochain. Elles le savent très bien. Et les préposés aux bénéficiaires le savent très bien, les médecins aussi. Il se pourrait qu'en octobre-novembre, on replonge. Alors, vaut mieux replonger avec un petit peu de repos. Alors, toujours selon le docteur Bachman, le système actuel souffre, Patrick, de quoi? D'un manque d'informations à propos de la transmission de ce virus. On a appris beaucoup de choses, mais on ne comprend pas encore comment il peut se transmettre aussi rapidement, puisque la plupart des personnes infectées sont asymptomatiques, n'ont pas de symptômes. Ça, il dit, c'est la clé, là. Si on veut apprendre rapidement, bien sûr que ça prend un vaccin, bien sûr que ça prend des médicaments, mais il dit, l'important, c'est qu'on comprenne comment il se transmet en vue de la seconde vague.
Parce que Paul, tu sais, il faut le dire, on sait que, bon, il peut rester sur les surfaces, le métal, je pense que c'est 24 heures ou quelque chose comme ça, sauf que les endroits où ça se propage le plus, la façon privilégiée, ça, c'est encore un mystère, là.
Et on a appris au cours des derniers jours, je sais pas si tu as vu cette étude, que même en plein air, dans certaines circonstances d'activité, le jogging, le vélo, ces choses-là, selon l'humidité relative, selon la température et selon le vent, ben il peut se propager à plus de 4 mètres. Tu comprends? Alors, c'est plus seulement les surfaces, là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura peut-être une seconde vague, mais qu'elle pourrait être très différente si on est prêt. En résumé, d'abord et avant tout, Il faut faire nos devoirs et nos leçons en peu de temps. Gestion adaptée pour les résidences de personnes âgées. Notamment, au niveau de la mouvance du personnel, d'abord s'assurer qu'on a suffisamment de personnel, et cette fameuse distanciation de la zone chaude avec la zone froide. Dès qu'on verra des mouvements entre ces zones intermédiaires, on va replonger dans une situation comme celle qu'on a connue dans les derniers mois.
Oui, puis Paul, c'est la clé, hein, les résidences pour personnes âgées, les systèmes, on en parlait hier à l'émission, en Grande-Bretagne, ils ont consulté les gens de Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, ils ont réussi à endiguer complètement le nombre d'infections dans les foyers de personnes âgées, puis je pense que c'est 3000 morts en Grande-Bretagne.
Exactement. Et je voudrais te citer l'Italie. L'Italie, enfin, a un certain répit, mais encore là, il y a plus d'une centaine de personnes qui meurent par jour en Italie. Je lisais, écoute, un article traduit du grand Il Messaggero, le quotidien italien. Mm-hmm. C'est toute une génération qui a été fauchée. Les 80 et plus en Italie, et en particulier en Lombardie, dans la région de Milan, on parle d'une véritable disparition de toute une génération. Ils étaient pas tous malades, ils avaient pas tous une grosse comorbidité, mais ils forment à peu près 90% des quelques 30 000 décès. C'est incroyable.
Et l'autre leçon à tirer de la première vague, Paul, ça va être la gestion des frontières.
Alors voilà, et nous y arrivons. Donc, résumons. Si une deuxième vague devait arriver octobre-novembre et s'étirer durant l'hiver, on pourrait avoir un scénario, si on le veut, si on le désire, tout à fait différent. J'ai commencé donc par la gestion adaptée pour les résidences, tenir compte de la mixité avec l'influenza. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Toi, t'attrapes la grippe, mais t'as pas la COVID-19. Il va falloir avoir des tests qui le démontrent. Deuxièmement, rapidité à reconfiner en ciblant des fermetures temporaires. On n'est pas obligé de jeter tout le système à terre, mais si on se dit « Oups, ici, on semble avoir une éclosion », il faut fermer. Mise en action de toute médication parallèle, approuvée également. Agir sans hésitation, et là, tu viens de toucher le point le plus important, et je vais y arriver à mon deuxième sujet. Fermer la frontière en...
Rapidement.
Immédiatement. Ben oui. Rapidement. Pas en deux semaines, comme on a pris au Canada, et ça peut faire toute la différence. Donc, il peut y avoir une deuxième vague, elle n'est pas garantie, mais il y a moyen d'apprendre ce que on vient d'apprendre en 10 semaines pour éviter d'avoir un scénario identique.
Parce que Paul, ça nous amène à ton deuxième sujet. T'sais, on parlait de fermer les frontières. Si le Canada avait fermé ses frontières, ou sans les fermer, contrôler ses frontières, comme dans d'autres pays, là, je parlais de Hong Kong tantôt, il y a eu un moment donné, il y avait une date butoir, là. Quand tu rentrais au pays, t'étais dépisté, t'étais ausculté, et s'il y avait le moindre doute, ben, t'étais mis en quarantaine forcé. C'était pas, s'il vous plaît, pouvez-vous vous mettre en quarantaine? C'était forcé, et ils ont un bilan incroyable.
Et là, je vais appuyer ce que tu viens de dire par une autre étude mathématique. Écoute, je pense que je suis rendu à peu près 12 modèles mathématiques.
Oui, mais t'es bon là-dedans, les chiffres.
Mais j'adore ça, tu le sais. Les maths, ça a toujours été ma meilleure matière. Mais c'est pas ça, c'est parce que ça vient d'une université extrêmement réputée, l'Université Columbia, au cœur du centre-ville de New York. Mise en garde, cependant, de ce que je vais dire, l'étude n'a pas été revisée par ses pairs. Dans une démarche scientifique, quand tu publies une étude, généralement, c'est revisé par d'autres universités. Alors, à Columbia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si les États-Unis avaient simplement imposé, là, écoute bien, s'ils avaient simplement imposé la distanciation sociale une semaine plus tôt, 7 jours, on aurait pu prévenir 36 000 décès.
Le tiers des décès.
C'est incroyable. Maintenant, l'étude porte sur la période qui va du 15 mars au 3 mai. Maintenant, si les États-Unis avaient simplement imposé la distanciation sociale 2 semaines plus tôt, on aurait évité 84% des décès actuels. Présentement, ça voudrait dire 81 000 décès de moins et on aurait eu 1 320 000 cas de moins. Je sais que c'est pas croyable, mais ça se tient.
Mais ça, Paul, c'est la définition même du mot exponentiel.
C'est exactement ça. T'as vu la cloche Comment ça grimpe d'un coup? Mm-hmm. Je vais te donner juste un exemple. Revenons à New York. 29 000 morts dans la ville de New York. Il y en aurait eu avec, si on avait pris les mesures deux semaines auparavant de confinement et de distanciation, 17 500 de moins pour deux semaines. Parce que, selon leurs études, et je te le rappelle, le tout premier cas qui est apparu, pas le premier décès, le premier cas qui est apparu à New York, dans la ville, 1er mars. 13 jours plus tard, 14 mars, premier décès. Alors, si on avait, comme c'était le cas, et excuse-moi de revenir encore sur la Nouvelle-Zélande, mais la Nouvelle-Zélande est le pays qui a le meilleur record, entre guillemets, je sais que c'est pas français, la meilleure performance contre le coronavirus, parce que eux sont entrés en action deux semaines auparavant, fin février. Et c'est incroyable, mais ces statistiques-là ne trompent pas. On aurait un bilan complètement différent aux États-Unis.
T'as raison, mais ramenons-nous début mars, là. Il y a personne qui était dans l'état d'esprit pour accepter de se faire imposer ça, Paul. Là, maintenant, tu sais, s'il y a une deuxième vague, hey, on a tous été brûlés, là. On le sait, quand on se met la main sur le poêle, ben, ça brûle. Mais le 1er mars, 2 mars, 5 mars, 6 mars, on n'était pas là pantoute en Amérique du Nord.
Mais t'admettras, et je veux pas tirer la pierre à aucun politicien, c'était toute une décision politique.
Absolument.
Que de tout arrêter. Rappelle-toi le fameux jeudi soir, là, quand le Canadien n'a pas joué. C'est parce que, pour moi, c'est un symbole. Tu sais, le Canadien devait jouer contre Buffalo. Tout s'est arrêté le jeudi 12 mars. Mais ce n'est qu'une semaine plus tard, vers le 19 mars, qu'on a mis le Québec en pause. T'imagines-tu la responsabilité pour les politiciens? Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et voilà le nœud de l'affaire. Si on n'a pas appris, parce que on a tous été courageux, tout le monde, évidemment, les travailleurs de la santé de première ligne ont été les plus courageux. Mais je te parle tout le monde, là, jusqu'ici. Alors qu'on célèbre peut-être un petit week-end là de déconfinement, il faut se dire une chose, continuons à respecter les règles de base, mais il faut que le gouvernement aussi continue d'apprendre les leçons apprises au cours des 10 dernières semaines. Et je te garantis, je suis sûr que le docteur Arruda dirait, si on passe une deuxième vague, mais avec... En ayant retenu la leçon, ça sera pas pareil du tout comme ce qu'on a vécu là.
On se croise les doigts. Parfait,
non,
Paul.
On se croise les doigts.
Ça nous amène au troisième sujet. Tu veux nous parler d'une fausse bonne idée.
Je sais pas si Marie-Claude Lortie est allée là. Parce que moi, je disais, Marie-Claude, ça a toujours été mon guide. Quand elle sortait le guide des restaurants, j'avais toujours une copie récente dans mon auto. Puis quand on cherchait, Français puis moi, un restaurant, on disait, on va les voir dans le guide de Marie-Claude. Patrick O'Connell, c'est un chef cuisinier. Elle doit le connaître. Qui opère un grand restaurant à Washington, The Inn at Little Washington. Mais là, écoute, tu sais, quand on part sur des manies ou sur des modes, il y a quelqu'un qui a dit, pour la réouverture, étant donné que j'ai pas le droit d'asseoir le même nombre de clients dans mon restaurant, il a installé des mannequins.
Des mannequins?
Ah. Oui, des mannequins. Alors, il y en a un qui a fait ça. Et, écoute, c'est comme aller souper au musée Grévin, là. T'as-tu le goût de t'asseoir? Alors, le grand chef Patrick O'Connell a fait la même chose hier. Il a assis des mannequins aux tables et il les a habillés en tenue de circonstance, tenue d'époque et tout ça.
Ben, voyons. Les Anglais ont un mot pour ça. Creep.
C'est creepy.
C'est un petit peu bizarre.
Creepy. Moi, c'est exactement ça. Alors, dis-moi, c'est comme les restaurants européens qui ont décidé de transformer leur salle à manger en forteresse, des cubicules de plexiglas propices à des crises de panique, de claustrophobie. Moi, je ne sais pas, mais j'ai le goût de dire, laissons passer un peu le coronavirus et essayez de redonner un des plaisirs de votre restaurant, de pouvoir avoir de l'ambiance humaine. Parce que là, moi, avoir des mannequins ou être au musée Grévin et de souper là, tu comprends? Je préfère les take-out ou la livraison.
Je te comprends tellement.
Et, toi ouais, aussi.
Puis ta livraison ou take-out préférée, c'est quoi?
Ben écoute, moi, quand je voulais manger rapidement, j'adore le Chalet Barbecue, un restaurant vintage, un restaurant d'époque au coin de Sherbrooke et d'Écarie, OK? Ça, là, tu vas au Chalet Barbecue, puis tu connais l'expression « what you see is what you get ».
Bien sûr.
Tu vas avoir un excellent poulet. Avec une sauce secrète, tu vas avoir des frites extraordinaires, puis tout le kit, comme on dit. Et puis là, je pense qu'ils font pas du take-out, puis ils font pas de livraison. Je trouve ça terrible. Parce que on voulait y aller l'autre jour, mais évidemment, ma femme dit, on peut pas y aller. J'avais complètement oublié ça. Ça, ça me manque. Mais, tu vois, je vais me revenger. Non, je peux pas le faire non plus, parce que j'habite plus maintenant dans quelque chose d'assez grand. Mais j'allais dire aux gens, revengez. La revanche a sonné en fin de semaine. Faites-vous un barbecue avec moins de 10 membres choisis de votre famille, parce que maintenant, faut que tu choisisses.
Oui, ça, si t'es pas sur la liste, si t'as pas d'invitation, tu sais que finalement, t'as pas de vrais amis, je pense.
J'en ai parlé avec Paul Arcand, Paul m'a téléphoné, bon, j'osais de ça. Il va en parler peut-être demain, c'est complexe, là, en fin de semaine, le déconfinement. Toi, t'invites qui, là?
Ben, j'attendais d'être invité, puis le téléphone a pas sonné, Paul.
Ben, tu vois, ben, c'est pareil comme moi, on n'est pas invité, on est des délaissés, on va être obligé de se confiner encore tout seul.
Je le dis. Je vais me commander une pizza, je vais regarder un film.
Ben, alors, pourquoi? Pas à cause du coronavirus, c'est parce que toi puis moi, on n'est pas assez populaire.
D'habitude, tu me fais rire dans ton dernier sujet, puis là, tu me déprimes.
Oui, mais là,
tu me renvoies à mes propres failles.
Je t'ai fait... Ben, moi aussi, les miennes, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Ça fait 40 ans que je suis confiné.
Bon, mais on fera ça sur ma terrasse, Paul.
Mais
toi
je
et
te
moi.
L'ai dit, aller souper au Musée Grévin ou aller souper au restaurant de Patrick O'Connell à Washington, c'est la même maudite affaire, voyons donc.
C'est épouvantable.
Voyons donc. Prenez le temps de bien rouvrir et nous serons là.
Es-tu allé au Musée Grévin?
Oui, parce que Thérèse était sur le conseil d'administration.
Mais c'est...
Tu savais pas ça?
C'est la chose la plus bizarre du monde.
Oh, chut!
À vous.
Écoute, celui de Madame Tussaud à Londres, ça faisait peur. C'était... À un moment donné, il avait reconstitué la guillotine.
La guillotine.
La guillotine. Et il y avait Marie-Antoinette au moment de se faire guillotiner. T'admettras que c'est un petit peu... Ça coupe l'appétit.
Ça coupe l'appétit.
Exact.
Merci, Paul.
Et, ah oui, demain, on est là.
Oui,
c'est
vendredi, on est là. Oh oui, tu me parles de ton émission de week-end demain vendredi.
Je me redéconfine.
Merci, Paul.
Bye.
L'état de la situation. Situation. Chaque jour, avec Paul Oud et Patrick Lagacé.
C'est 23.